à Macerata. Alors, je pense qu'il y a plus de miracles eucharistiques que je vous ai dit au début, mais j'ai... parce que je m'étais arrêté à une section. Donc, il doit y avoir une centaine de miracles eucharistiques. Un prêtre qui doute voit du sang jaillir de l'hostie consacrée. En 1356. En 1604, deux hommes en état de péché mortel font tomber pendant la messe deux hosties qui gravent le sol. C'est-à-dire que dans la pierre, il y a le rond des deux hosties. 1604, à Mogoro en Italie. En 1560, à Morovalle, une hostie consacrée demeure intacte après un incendie. À Ofida, hostie transformée en chair. Reconnaissance papale, hein, 1273-1280, à Ofida. À Paternio, à Naples, en 1772, des hosties volées retrouvées intactes sous un tas de fumier par une lumière et une colombe qui signale la présence des hosties. À Rimini, en 1227, une mule s'incline devant l'hostie consacrée. Saint Antoine de Padoue, qui était un grand théologien et d'une grande pureté d'âme, un grand prédicateur, un homme avait dit « Mon âne mangera vos hosties ». Trois jours plus tard, il arrive avec son âne affamé, qu'il n'avait pas nourri, et l'âne se met à genoux devant le ciboire que présente saint Antoine. Si je fais ce genre de proposition, assommez-moi. À Rome, au 6e, 7e siècle, le pape Saint Grégoire le Grand, une femme rit et le pape refuse de lui donner la communion et l'hostie qu'il ramène sur l'autel se transforme en chair et en sang. Dans les années 604. À Rome, en 1610, empreinte dans le sol d'une hostie tombée sur la marge de l'autel dans l'église Santa Prudenziana. À Rosano, en 1948, une statue du Sacré-Cœur saigne et pleure en plusieurs occasions. Je ne sais pas si c'est reconnu. San Mauro la Brucca, en 1969, des particules d'hosties volées et retrouvées, mystérieusement conservées. À Saint-Pierre d'Amiani, au 11e siècle, une particule d'hostie détournée pour de la magie se transforme en chair. C'est Saint-Pierre d'Amiens qui la récupère. À Scala, en 1732, les signes de la passion apparaissent dans une hostie consacrée, devant saint Alphonse de Ligorie. À Sienne, en 1730, miracle reconnu par l'Église de manière solennelle. Depuis 276 ans, 223 hosties sont conservées intactes dans la basilique Saint-François à Sienne en Italie. Le scientifique Enrico Medi s'exprime à ce sujet. Cette intervention directe de Dieu est le miracle qui témoigne depuis des siècles de la présence réelle du Christ dans le sacrement eucharistique. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est le 14 août 1730 que le miracle a eu lieu, selon le mémoire de l'événement rédigé la même année par un certain Mac. Il raconte que ce jour-là, des voleurs s'introduisirent dans la basilique et volèrent le ciboire qui contenait 351 hosties consacrées. Comment on le sait? D'abord, les sacristains comptaient les hosties et on comptait les communions. Ce n'est pas nécessaire, de nos jours, on ne le fait plus. Trois jours plus tard, le 17 août, on retrouva dans le tronc de l'église du sanctuaire de Sainte-Marie des Provenzano les 351 hosties intactes. Là, on les a comptées aussi. Donc, les voleurs étaient des bons catholiques. Ils ont pris le ciboire pour le fondre, pour le vendre. Mais les hosties, ils ont eu trop peur. Ils les ont mis dans un... Par contre, de se dénoncer un prêtre, ils ont eu trop peur et les ont mis dans un tronc. Au lieu de pièces, ils mettaient les hosties. Elles apparurent mêlées à la poussière qui s'était accumulée au fond du tronc. Le peuple accourut pour fêter la récupération des saintes hosties qui furent aussitôt rapportées en procession à l'église Saint-François. Mais on n'a pas osé les consommer à cause de la poussière. Mais on ne les a pas mises dans l'eau non plus. On les a conservés. Les années passèrent et l'on observait dans les hosties aucune des altérations qui auraient dû survenir naturellement. Hosties épaisses, hein. Le 15 avril 1780, le ministre général des Frères mineurs, le père Carlo Vipera, consomma une des hosties. Donc, 40 ans plus tard. Oui. 50 ans plus tard. Imaginez, normalement, c'est au moins sec, comme un biscuit militaire. Hein. Il constata qu'elle était fraîche, ne montrant aucune corruption. Quelques-unes ayant été distribuées au cours des années précédentes, le supérieur ordonna alors de garder, sans jamais les distribuer à l'avenir, les 230 restantes. Mais on avait constaté le miracle à travers ces 50 années. En 1789, désiré de faire toute la lumière sur ce phénomène inexplicable, l'archevêque de Sienne, Don Tiberio Borghese, garda quelques hosties non consacrées dans un récipient, dans des conditions identiques à celles des hosties consacrées. 10 ans plus tard, une commission de scientifiques, sélectionnée tout spécialement pour étudier ce cas, ouvrirent le récipient et n'y trouvèrent que vermine et fragments moisis. Des hosties non consacrées, hein. Ils l'ont mis dans un ciboire. Ouah, qu'est-ce qui se passe quand même? Que finalement, peut-être que les boulangers faisaient des hosties particulièrement bien faites. Ou... Non, elles ont été moisies. Alors que les hosties, consacrées étaient conservées telles qu'on peut les voir jusqu'aujourd'hui, contredisant toutes les lois physiques et biologiques. En 1850, un test similaire fut effectué avec les mêmes résultats. À plusieurs reprises, les hosties furent examinées par des personnes de confiance ou illustres par leur savoir. Mais les conclusions furent toujours les mêmes. Les particules sacrées sont toujours fraîches, intactes, physiquement incorrompues, chimiquement pures et ne montrent aucun début de corruption. Ça, c'est un miracle permanent, hein. Extraordinaire à Sienne. C'est impressionnant. Imaginez, vous mettez une baguette fraîche sur votre table et un an plus tard, elle est fraîche et croustillante. Là, vous vous poserez des questions. La plus qualifiée des inspections eut lieu en 1914 lorsque le pape Saint-Pédis autorisa un examen auquel participèrent de nombreux professeurs de bromatologie, hygiène, chimie et pharmacie. Les scientifiques conclurent que les hosties avaient été préparées sans aucune précaution scientifique et qu'elles avaient été gardées dans des conditions normales, facteurs qui auraient dû les conduire à se dégrader naturellement. Cependant, elles étaient en aussi bon état qu'elles pouvaient être consommées 184 ans après le miracle. Le professeur Ciro Grimaldi, un chimiste réputé de l'université de Sienne et directeur du laboratoire municipal de chimie, était le principal scientifique de la commission de 1914. Il déclara, dans un livre qu'on appelle « Un savant adore », « La farine de blé est le meilleur terrain de culture des micro-organismes, des parasites animaux et végétaux, de la fermentation lactique et pudride. Les hosties de Sienne sont donc en parfait état de conservation contre toute loi physique et chimique et malgré les conditions totalement défavorables dans lesquelles on les a trouvées et conservées. Il s'agit d'un phénomène singulier, absolument anormal. Les lois de la nature se sont inversées. Le verre s'est moisi, tandis que la farine s'est révélée plus réfractaire que le cristal. » Au XIe siècle, à Trani, en Italie, une femme vole une hostie, la met dans une poêle par haine, et du sang jaillit de l'hostie jusqu'à la porte d'entrée. À Turin, en 1453, l'apparition de la Vierge comme enceinte et la guérison miraculeuse, près d'une hostie probablement. À Turin, en 1640, le feu sort de la porte du tabernacle. Un feu qui sort. En 1570, à Véroli, l'enfant Jésus apparaît dans une hostie exposée. La vie de Sainte Catherine de Sienne, qui a eu des miracles eucharistiques personnels. Saint Satyr, sauvé d'un naufrage, récit de Saint Ambroise, son frère.
Mais à Turin, il n'y a pas aussi eu des hosties qui ont été dans le ciel?
Oui, à Turin, oui.
Qui
sort du sac du voleur.
Oui, un peu comme ça.
Vous êtes sûr que c'est pas ailleurs?
Non, c'est
pas. À Volterra, en 1472, un soldat jette un ciboire rempli d'hosties contre le mur d'une église. Elle se transforme en lumière et s'élève suspendue dans le vide. À Guadeloupe, au Mexique, une femme vole une hostie qui saigne, qu'elle met dans un tiroir avec rayon de lumière. Au Pérou, à Étienne, en 1649, l'enfant Jésus apparaît dans une hostie. En Pologne, à Głotowo, en 1298, Une hostie s'envole du sac qui la contient et descend dans le calice tenu par l'évêque de Poznań. Non, pardon, de l'évêque. Peut-être Poznań 1389, une langue de feu sort de l'hostie volée par un soldat qui brûle son visage et ses vêtements. Ça, c'est un peu plus... En 1550-1568, Saint Stanislas Costa, des anges le font communier. À Santarém, en 1947, une sorcière, pour un filtre, demande une grande hostie. Une hostie qui devient lourde dans la main de la voleuse, tombe dans une haie et les porcs se prosternent devant l'endroit. Elle la récupère, elle la ramène chez elle, elle la met dans un coffre. La nuit, le coffre devient lumineux, la maison devient lumineuse et l'hostie changée en chair et sanglante, ou l'hostie qui a saigné, eh bien, nous l'avons adorée à Santarém, à environ 50 km de Fatima. En 1916, l'ange de la paix présente un calice et une hostie suspendue en l'air et communie les trois pastoraux. En 1904-1955, la bienheureuse Alexandrina Maria da Costa vit de la Sainte Eucharistie. En Suisse, en 1447, un ciboire volé par une secte satanique miraculeusement retrouvé. Saint Nicolas de Flux, en 1417, vit de la Sainte Eucharistie pendant une dizaine d'années. Communion miraculeuse. La bienheureuse Emilia Bicchieri, la bienheureuse Imelda Lambertini, une hostie se présente devant elle pendant la communion parce que on communiait pas avant l'âge de 12 ans. Elle voulait communier. L'hostie se présente devant elle, sort du ciboire et le prêtre vient jusqu'à elle, prend l'hostie et la communie. Et elle meurt en extase. La bienheureuse Imelda. Bienheureux Giacomo da Montieri, le bienheureux Tommaso da Cori, Saint Bernard, Saint Bonaventure, Saint Geraldo Maiella, Saint Jérôme, Sainte Giuliana, Sainte Lucia, Sainte Maria Francesca, Saint Segondo, la bienheureuse Angela da Foligno, Sainte Agnès, Sainte Chiara, Sainte Françoise Romaine, Saint Grégoire le Grand, Sainte Thérèse d'Avila, communion miraculeuse. Voilà. Ça, c'était pour les miracles eucharistiques. Il doit y en avoir d'autres, mais... Voilà. Tout cela pour vous dire que je pourrais en trouver d'autres et que notre Seigneur le veut, le permet. Et ce n'est pas parce que ça s'est passé il y a 700 ans ou il y a 3 ans que ça fait une différence. Il y a eu des miracles eucharistiques. Et actuellement, tout scientifique sérieux doit aller à Sienne en Italie. Parce que dans la basilique Saint-François, ces 223 hosties qui sont conservées font un défi aux lois de la nature. Elles ne sont pas sanglantes, elles sont fraîches depuis 276 ans. Ça, c'est un des miracles permanents de l'histoire humaine. 1730, hosties volées, retrouvées, et qui sont intactes depuis 267. Ça, n'importe quel athée qui a des connaissances en chimie peut le constater. Ensuite, vous voyez, ça ne nous oblige pas à croire, apparemment. Oui ?
Pour les botanistes, il y en a aussi un, pour ceux qui sont intéressés, c'est le miracle du haricot du Saint-Sacrement, en Alsace, à la région française.
Oui.
Il avait caché un transport, en fait, dans des haricots.
Oui, mais il y avait l'hostie avec.
Oui.
C'est des fidèles, je crois, qui l'ont caché.
Les fidèles qui l'avaient caché,
en Alsace. Parce qu'en absence de prêtres, ils n'ont pas voulu consommer l'hostie.
Voilà.
Ils auraient dû. Ils ont fait un trou dans la terre et ils ont mis l'hostie en soie. Le danger est passé, ils l'ont rendu à un prêtre. Mais tous les haricots de ce champ, haricots blancs, poussent avec un hostie en soie comment dire, en nombre noir sur le haricot. Mais très précis. Hein. Encore aujourd'hui. L'ostensoir est sur le haricot. Enfin, le motif. C'est sidérant. Hein. Moi, on m'en a montré. Donc, vous voyez, il y en a encore d'autres, des miracles comme cela. Mais pas, là, c'est pas reconnu. Enfin, je vois. Mais c'est béni par l'Église, par une grande tolérance. Mais là, les histoires, quand je m'arrêtais sur des récits précis, c'est parce qu'elles sont solennellement reconnues par l'Église. Oui. Oui. Toutes ne sont pas. Parce que là, c'est très large. Hein. L'évêque du lieu, ou la piété populaire. Ah oui, 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 tout à fait. C'est un miracle, oui, ou l'électricité. Oui, mais de manière extrêmement brutale, hein, ça fait bizarre. Oui, mais c'est pas très digne.
Oui. C'est avant la consécration.
C'est à l'épiclèse. Non, mais c'est possible. Hein. Les guérisons miraculeuses reconnues par l'Église catholique. De très nombreuses personnes affirment avoir été guéries à Lourdes. Il y a d'autres endroits. En 1884, l'Église catholique a mis en place une structure, le Bureau des constatations médicales, en 1884, pour examiner les déclarations et parfois authentifier les miracles. Le processus d'authentification passe par trois grandes étapes. Examen par le Bureau médical de Lourdes, l'ancien Bureau des constatations, transfert au Bureau médical international, Comité médical international de Lourdes fondé en 1925, investigation par le diocèse d'origine de la personne guérie. Le diocèse d'origine de la personne guérie statue sur l'état du miracle. Par l'intermédiaire de la commission diocésaine, le sens à donner à la guérison est alors le guide principal de l'évêque concerné. Il doit s'agir d'un signe de Dieu et non d'une simple guérison. À ce jour, sur quelques 7000 dossiers de guérison déposés à Lourdes depuis les apparitions, et je peux vous assurer que les gens ont le sens du ridicule, donc, ils ne déposent un dossier que lorsqu'ils ont un dossier médical. Ils ne vont pas venir et dire « Oh, j'avais un cancer de l'estomac. Si, 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 je le sentais. Et je le sens plus. » Voilà. À ce jour, sur quelques 7000 dossiers de guérison déposés à Lourdes depuis les apparitions, 69 guérisons, je crois que 70 maintenant, ou 71, ont reçu le statut de guérison miraculeuse après un processus qui peut s'étaler sur plusieurs années, donc c'est très dissuasif. La bénédiction solennelle par les prêtres et les évêques est un des rites les plus attendus par les pèlerins. Certains malades auraient guéri à ce moment précis, d'autres en buvant de l'eau de la source, en priant à la grotte, ou le plus souvent après s'être baignés dans la piscine. Et là, vous voyez, seules les deux premières étapes ont un caractère véritablement scientifique. La dernière étape est religieuse. La maladie doit avoir été elle-même authentifiée, le diagnostic confirmé préalablement à la supposée guérison. Le pronostic doit être totalement clair pour les médecins, y compris quand il s'agit de lésions à caractère permanent ou d'un pronostic de décès. La guérison doit être complète, immédiate, sans convalescence, définitive et sans rechute. Ça, c'est l'Église catholique. Hein. Je vous assure, aucun des traitements ne peut être considéré comme la cause de la guérison, ne doit être considéré comme la cause de la guérison. Ces critères stricts éliminent rapidement la grande majorité des déclarations avant même leur examen par les autorités religieuses, comme en témoignent les dossiers conservés au bureau médical. Émile Zola, doutant de ses guérisons, mène une enquête scientifique sur ses guérisons en 1892 en se rendant en train blanc à Lourdes lors du pèlerinage national. Il en rencontre deux graves malades condamnés par la médecine, Marie le Branchu et Marie le Marchand, qui décident d'en faire les héroïnes de son prochain roman. Bien qu'il constate lui-même leur guérison subite, il exprime son scepticisme dans un écrit intitulé « Mon voyage à Lourdes » et dans son roman « Lourdes » publié en août 1894, dans lequel il n'hésite pas à les faire mourir après une rémission passagère, ce qui est faux. Le docteur Boissary, président du bureau des consultations médicales de Lourdes, lui reproche cette distorsion des faits. Oui. Mais Émile Zola finira par se convertir. Et il a fait une lettre avant de mourir, disant qu'il mourrait catholique. Ça, c'est peu connu. Le docteur Pierre Bachet a écrit un livre sur toutes les escroqueries de Lourdes, à Lourdes. Les gens qui arrivaient, qui disaient qu'ils avaient été guéris, tout ça, enfin voilà, et qu'on avait découvert qu'ils mentaient pour être connus dans leur village. D'après la liste des miraculés de Lourdes, la guérison de Peter de Ruder n'a pas eu lieu à Lourdes même, mais dans un sanctuaire de Notre-Dame de Lourdes en Belgique. En 1858, 7 guérisons qui ont été reconnues en 1862 par l'évêque de Lourdes. Catherine Latapie, dite Choix de Lombajac, de Loubajac, guérit le 1er mars 1858 d'une paralysie de type cubital par élongation traumatique du plexus brachial depuis 18 mois. Elle est repartie sur ses pieds. Louis Bourriette de Lourdes guérit le 26 avril, à 54 ans, d'un traumatisme de l'œil droit datant de 20 ans avec amaurose. C'est l'œil mort. Donc c'est sûr que quand vous retrouvez la vue au bout de 20 ans. Voilà. Et je vous laisse lire, j'ai fait exprès de vous reproduire toutes les guérisons de Lourdes. C'est amusant. Voilà. Page 16, page 17. On va prendre les dernières. Page 17 en bas. Serge François, d'Angers, guéri à 56 ans, le 12 avril 2002, d'une algie sciatique. Guérison reconnue et inexpliquée. Voilà. Reconnue en 2012. Il a attendu 10 ans, le brave homme. Voilà. Luciana Traverso de Casale Monferrato, guéri à 31 ans. Le 23 juillet 1965, d'une lombo-sciatique paralysante. Le décret est tombé en 2013. C'est vraiment impitoyable. Danila Castelli de Beregardo, guérie à 43 ans, le 4 mai, de graves crises d'hypertension dues à une phéochromocytome. Voilà. Et tout d'un coup, elle n'a plus eu de fer dans le sang. Enfin, suffisamment pour être en bonne santé. Le Padre Pio. Voilà. Donc, le Padre Pio dit, Jésus, mon fils... Alors, la Vierge Marie dit au Padre Pio, Jésus, mon fils, t'aime beaucoup et veut te donner une grâce. Savez-vous comment devenir digne? Dans ma misère, je ne savais pas quoi répondre. Puis elle continua. Je serai une mère pour toi. Voulez-vous vous montrer une vraie... Ah non, ça, c'est pas le Padre Pio. Eh bien, dans les copier-coller, vous ne saurez pas quelle est la sainte qui a été stigmatisée. Tant pis pour vous. Bilocation. Comment? Peut-être. Signora Concetta Bellarmini de San Vito Lanciano déclare qu'elle a soudainement subi une infection du sang suivie d'une pneumonie bronchique à forte fièvre. Elle a été réduite à un tel état que les médecins ont désespéré de la sauver. La chair était devenue jaune de l'infection qui s'est répandue dans son corps. Un parent l'a exhortée à diriger ses prières à Padre Pio. Elle a prié celui qu'elle n'a jamais vu quand soudainement, en plein jour, un moine stigmatisé lui apparut et... lui souriant, ça c'est une traduction automatique, la bénissait sans la toucher alors qu'il se tenait au milieu de la pièce. La femme lui a demandé si son apparence signifiait la grâce de la conversion de ses enfants, sinon la grâce de sa guérison physique. Alors le père répondit, « Dimanche matin, tu seras guéri. » Il disparut de la chambre, laissant une odeur de parfum que la servante sentait aussi. Après cette visite, sa chair a changé de couleur, normale, la fièvre a cessé, et dimanche matin, sa santé a été complètement restaurée. Elle est allée avec son frère à San Gianviani Rotondo, pour voir si Padre Pio était celui qui lui était apparu. Quand elle est arrivée au monastère et a vu le Padre Pio dans l'église, elle s'est retournée vers son frère et a dit « Là, il est le seul !» Il a reconnu celui qui lui était apparu, mais à plusieurs kilomètres. La bilocation, divisée en deux positions, est un don spécial de Dieu où un individu peut être en deux endroits à la fois. Dieu utilise toujours ce don par des actes de miséricorde ou de charité à accomplir par le saint, dans les circonstances où il est physiquement impossible pour le saint d'être présent dans des circonstances normales. Bien que le don de bi-emplacement ait été donné à d'innombrables saints, probablement l'un des contes les plus fréquents et les plus documentés s'est produit relativement récemment dans la vie extraordinaire de saint Padre Pio de Pietrelcina. Mais 1887-1968. Les bilocations ont toujours fait rire. Sauf que lui, il a vécu au XXe siècle. Et des bilocations, il en a fait des dizaines. Donc voilà. Alors on se moque des bilocations des saints du Moyen-Âge. Alors pour le Padre Pio, on rigole beaucoup moins. Parce qu'il y a des témoins. Et voilà. Donc vous avez un livre... des livres là-dessus, je vous passe tous les récits de bilocation qui d'ailleurs il est deux fois celui-là, bon c'est pas grave. Le 20 juillet 1921, un monseigneur d'Indico de Florence que cet auteur a rencontré en 1923 en étudiant la théologie au séminaire de l'archevêché de Florence était seul dans son étude. Il ressentait la sensation d'avoir quelqu'un derrière lui. Il se retourna et vit un moine qui disparut. On est en 1921. Hein. Il a quitté son quartier pour dire à un aumônier ce qui s'est passé. L'aumônier pensait que c'était une simple hallucination due à son état actuel d'anxiété sur sa sœur qui était très malade. Il l'a invité à faire une courte promenade pour la distraction mentale. Quand ils sont rentrés, ils ont appelé à la salle des malades. Sa sœur, un peu avant, était dans le coma. À la même heure que lorsque son frère ressentait la sensation d'être en présence de Padre Pio, elle raconta, parce qu'elle était sortie du coma, qu'elle avait vu un moine entrer dans sa chambre qui s'approchait d'elle et dit « N'ayez pas peur, demain votre fièvre disparaîtra et après quelques jours, il n'y aura aucune trace de votre maladie sur votre corps. » « Mais Padre, est-ce que tu es alors saint ?»« Non, je ne suis qu'une créature qui sert le Seigneur par ses miséricordes. Laissez-moi embrasser votre habit, baiser le signe de la passion. » Et il a montré ses mains stigmatisées. « Padre, je te recommande mon mari et mon enfant. Priez et priez pour que vous soyez bien et soyez assurés que votre enfant sera sous ma protection. » Et après la bénédiction, il a disparu. Voilà. Donc vous voyez, hein, c'est assez impressionnant. Mais moi je connais quelqu'un qui a eu un songe. Il avait été empoisonné lors d'un repas parce qu'il s'occupait d'une affaire particulière et on voulait le tuer. Et on l'a. Il allait. Et donc il était à l'hôpital en train de mourir. Hein, le poison détruisait ses tissus les uns après les autres. Et une nuit, il a eu en songe le Padre Pio qui se penchait vers lui et qui mettait sa main sur son cou. Et le lendemain, il était guéri. Mais ça, je ne peux pas vous dire qui, quand, quoi. Hein, c'était en 2010. Alors vous allez me dire, oh hein. Eh bien, Emma Madeghello, page 20 en bas, une très jolie jeune fille de 14 ans a été touchée par une épilepsie qui l'a jetée plusieurs fois au sol par semaine. Une après-midi en prière, Padre Pio lui apparut et posa sa main sur le drap, puis sourit et disparut. L'épileptique guérie s'est levée pour embrasser l'endroit où le Padre Pio avait mis sa main et elle a remarqué une croix de sang laissée sur la feuille, sur le drap. Une petite coupe carrée du drap avec les taches de sang est conservée aujourd'hui dans un cadre en verre par la famille. Par l'intercession de Padre Pio, écrit cette fille miraculeusement guérie qui n'a plus jamais eu, comment dire, de crise d'épilepsie. Et là, vous en avez. Le Padre Pio, c'est un monde de miracles. Hein. Il mettait 2 heures pour célébrer la messe. Comme ça, vous plaignez pas, parce que si la messe de 11 heures chantée était célébrée par notre trio, là, vous en auriez pour 3 heures. Lévitation. Il y en a un que j'ai manqué, celui qui est le patron des aviateurs, Saint-Joseph de Compostino. Alors, Saint-Gérard Magella était souvent ravi de lévitations remarquables, souvent éloignées par Dieu, pour certaines distances. Il suffisait à Saint-Gérard Magella de penser à l'amour de Dieu ou de contempler le mystère de l'incarnation, de jeter ses yeux sur un crucifix ou une image de la Sainte Vierge ou d'être en présence du Saint-Sacrement. Et il montait en l'air. L'un des nombreux exemples serait lorsque Saint-Gérard, ayant l'intention de passer quelques jours à Oliveto, a reçu l'hospitalité à la maison d'un archiprêtre nommé Don Salvatore. Le miracle a eu lieu le matin même de son arrivée à Oliveto. Saint Gérard s'était retiré dans sa chambre pour prier. À l'heure du dîner, l'archiprêtre s'est engagé à l'inviter à dîner, mais à son étonnement, il trouva le frère ravagé d'extase, ça c'est une tradition, en extase, et s'élança à environ 3 pieds du sol. Rempli d'étonnement, il se retira, puis revenant peu de temps après, il le trouva dans le même état, toujours en l'air. On dit que, bon, c'est difficile de discuter avec quelqu'un qui a le visage lumineux et qui fait de la lévitation. Tout le ménage, tout témoin de l'événement extraordinaire, incapable de s'asseoir à dîner, attendait l'hôte avec des larmes d'émotion. Enfin, il apparut, son visage enflammé. « Ne m'attendez pas, » dit-il à l'archiprêtre. Décidément, la traduction est capricieuse. « Je ne veux pas vous déranger. » Pour conserver la mémoire de cet événement, l'archiprêtre marqua sur le mur de la pièce la hauteur à laquelle il avait vu le saint s'élever. « Chlac !» On ne me croira pas, mais moi je l'ai vu à cette hauteur-là. Alors sur la nature, je passe. Couronne d'épines. Le don des langues. Saint Antoine de Padoue, page 24. L'un des disciples et compagnons choisis de Saint François, que celui-ci appelait son vicaire, prêchait un jour devant le pape et les cardinaux dans le consistoire à Rome. Il y avait donc à ce moment-là des hommes de pays différents. Des Grecs, des Latins, des Français, des Allemands, des Slaves, des Anglais. Étant enflammé par le Saint-Esprit inspiré de l'éloquence apostolique, il a prêché et a expliqué la parole de Dieu avec tant d'efficacité, de dévouement, de subtilité, de manière claire et incompréhensible, que tous ceux qui étaient réunis à ce consistoire ont tous entendu ce qu'il disait. Et ça, c'est le vrai don des langues. Voilà. Vivre de l'Eucharistie. Vous avez la bienheureuse Alexandrina d'Acosta. De 13 ans jusqu'à sa mort, uniquement la Sainte Eucharistie. Vous voyez, elle est bienheureuse. Des guérisons miraculeuses, vous avez à nouveau le Padre Pio. Des corps incorrompus. Vous avez des exemples ici, à l'exemple de Saint Charbel. Mais que voulez-vous, je...